Quelle belle visite, quel beau jeudi. Très content de le recevoir pour la première fois en studio après une année, on va le dire, là, assez difficile, assez problématique. Mais malgré tout, c'est son entrée en scène et j'ai envie de vous dire, je pense que c'est partagé par tous, que c'est très bien réussi. Louis Robitaille, le coach des Olympiques, le directeur des opérations est en studio. Comment ça va, Louis?
Ça va très bien, vous autres.
Content de te recevoir en studio.
Vraiment.
Te sens-tu bien?
Je me sens très bien.
Oui, tu te sens bien? Tu te sens bien après la saison qu'on vient de connaître, malgré tout, là? Es-tu content de ce qu'on a vécu, de ce que vous avez vécu?
Il y a deux parties, je te dirais, à cette réponse-là. Je suis extrêmement content, puis je suis extrêmement fatigué également. Il y a on a passé par une montagne russe d'émotions à travers la saison. On a eu des hauts, des bas, avec tout ce qui s'est passé à travers le monde également. Quand je regarde là, dans l'ensemble, là, quand je suis arrivé ici au mois d'avril, puis qu'on regarde aujourd'hui là, à pareille date, le travail accompli par l'organisation en entier, le groupe de propriétaires, le bureau administratif, puis même l'équipe sur la glace, c'est très encourageant pour la suite des choses.
Avant qu'on parle de la saison de hockey, l'arrivée de Louis Robitaille a rassuré pas mal tout le monde ici dans l'Outaouais. T'sais, on avait besoin de crédibilité, on avait besoin de redresser la barque. Ça a été fait. Mais ce qu'il y a de plate, c'est que tu es comme un fantôme. C'est-à-dire que les gens t'ont pas encore vu. Les gens n'ont pas eu la chance d'aller à Guertin ou encore à Slush Poppy, puis de t'applaudir, puis de te voir avec tes lunettes noires derrière le banc en train de dire à ton russe tchai, vas-y.
Katatsa.
Mais c'est ça. Puis c'est un peu plate pour toi parce que j'imagine qu'un coach, un ancien joueur, puis t'es pas vieux non plus, tu sais, t'as encore l'adrénaline, t'as encore le feeling du banc, tu veux sentir la foule, ça doit te manquer en jouant. Le vert, tout ça. Là.
Incroyable. C'est la partie plate de la saison. Là. On regarde et on est content d'avoir joué, mais moi, là, quand j'ai été nommé directeur gérant et coach ici à Gatineau, la première idée qui m'est venue en tête, c'est arriver par les deux grandes portes puis monter sur le banc puis voir le building plein. T'sais, j'avais vraiment le feeling que, puis c'est pas à cause de mon arrivée, mais avec l'ensemble.
Des facteurs qu'on a apportés.
Exact. Puis les choix repêchage. T'sais, on sentait un engouement l'été passé déjà, que le monde avait hâte de venir à Guertin. Puis là, on espérait donc, puis là, on n'a pas réussi à l'avoir. C'est une partie de la job qui est difficile, c'est cette motivation-là également. Puis j'ai essayé, j'ai même demandé aux gars de fermer leurs yeux avant la Game 3. J'imaginais Guertin bien plein, qui nous crie, qui nous encourage, l'ambiance, mais on pourra jamais, je pourrais jamais le vivre, puis ça me déçoit un petit peu.
T'as dit ça à tes joueurs, toi, là. Fermez-vous les yeux, là, puis imaginez-vous qu'on est à Guertin, c'est plein, là, puis le monde, Ah, ouais. Hein.
Juste avant le début de la game, parce que, tu sais, on sentait que notre groupe était fatigué. Puis c'est important de chercher cette motivation-là, puis des petits facteurs comme ça. Puis moi, c'est important dans nos vidéos de motivation également. Le premier vidéo de l'année, ça a été une vidéo où est-ce qu'on a montré les Pat Burns. La première personne qu'on a montré, c'est M. Henry. Mais tu sais, les Pat Burns, Alain Vigneault, les Claude Julien, Benoît Groulx, les joueurs. Martin Ménard s'est adressé à nos joueurs avant les séries avec Jean-Gabriel Pageau. C'est que, tu sais, on veut vraiment attacher nos anciens à l'organisation. On a tellement une forte tradition, puis il y a tellement des grands joueurs qui ont passé ici. Puis là, on parle pas juste de joueurs de hockey. Tu sais, je pense à Bruno Lemire qui gagne extrêmement bien sa vie, qui est allé à l'Université McGill. Tu sais, Martin Ménard, que durant le COVID, qui est un ancien capitaine, qui est allé porter de la nourriture à Serge Haché. Tu sais, on le sent que les anciens veulent juste revenir. Puis moi, c'est la première chose. Puis je n'ai parlé avec Luc Chénier, puis je n'ai parlé avec Dan Brunet. Puis si on veut ramener la crédibilité de l'organisation, c'est de ramener ces anciens-là, puis qu'ils soient fiers de nous.
Très intéressant ce que tu tiens comme discours. Maintenant, il n'y a personne dans l'aréna, il fallait faire avec, il fallait aussi pas perdre de vue qu'on a un jeune club, qu'on a amené, qu'on a eu des bons choix repêchage, puis là, il fallait leur faire vivre une première saison. Puis j'ai envie de dire que la première saison, il y en a qui sont exceptionnels, qui sortent du lot à 16 ans, puis qui arrivent, puis qui brûlent la ligue. Mais la plupart du temps, Louis, c'est de leur apprendre à courir. Tu sais, ils marchent déjà, là. Là, à cette heure, on va apprendre à courir, puis l'année prochaine, on va rouler. C'est ça, éduquer un 16 ans dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
C'est nouveau pour eux. Tu sais, souvent, c'est top, les top prospects qui arrivent, puis ça n'a jamais été difficile.
Ils ont toujours été meilleurs de leur club.
Oui, je te dirais que notre batch, le groupe de joueurs de 16 ans cette année, ce qui était le fun, c'est que les Warren, les Véro, puis les Luno, ils ont fait partie d'équipe Canada aux Olympiques juniors. Jeunesse. Mm-hmm. C'est que déjà là, ils ont vécu de l'adversité face aux meilleurs au monde de leur groupe. Puis quand vous regardez là, les Russes avec Mishkov puis Mirochenko, puis ils ont joué contre eux, ils ont joué contre les Américains, ils ont vu un aréna en Suisse avec 10 000 personnes. C'est que cette pression-là, ils l'ont vécu. C'est que ça, c'est encore plus intéressant. C'est qu'un petit peu moins de stress, mieux préparé à faire face à la musique pour le niveau supérieur. Mais après ça, une saison junior majeure, C'est différent que le Midget 3. Tu pars en pension pour la première fois. Tu joues avec des gars de 16 à 20 ans. Puis moi, je comparais toujours ça à Antonin Véro. Je dis, imagine, t'es dans le Midget 3 puis tu joues avec un petit gars de 12 ans qui est callé up. Même si c'est le meilleur au Québec ou au Canada, il va avoir une différence. Il va avoir une différence. Il y a une différence. Les jeunes de 16 ans sont pas à la même place physiquement et mentalement qu'un jeune de 20 ans qui a peut-être eu deux blondes, qui est allé déjà au bar, qui a son auto. Ils ont pas passé par les mêmes étapes de la vie. Puis ça, c'est un processus. Puis souvent, ils sont pas outillés parce qu'ils connaissent pas, ils s'en vont dans le néant. C'est que c'est là que, comme coach, comme mentor, faut que tu les accompagnes puis tu leur expliques. Puis moi, je prends tout le temps l'exemple des Navy SEALs qui laissent un soldat se noyer.
Ouais.
Ils sortent de l'eau, ils réaniment, ils le remettent dans l'eau. Puis c'est ça l'expérience que tu veux faire vivre à tes 16 ans. Puis je veux pas dire que je veux les nayer parce que c'est comme mes enfants, je les adore. Mais en même temps, c'est important qu'ils apprennent, qu'ils grandissent de ça. Puis après ça, ils vont être encore plus prêts l'an prochain. Puis chaque année dans le junior majeur du Québec, tu vas avoir quelque chose de difficile à traverser. Comme l'an prochain, ça va être leur année de repêchage. La pression médiatique. Après ça, à 18 ans, t'arrives, t'es drafté, tu penses que c'est rendu facile, faut que tu signes un contrat. Tu vas avoir ton premier camp dans la Ligue nationale à 19 ans. C'est que chaque année, il y a de l'adversité, mais elle est différente. Mais quand t'as passé à travers l'adversité qui est tough à 16 ans, puis ça a bien été, mais c'est là que t'es prêt à faire face à la musique.
As-tu envie de dire que ça a bien été pour tout le monde, pour tous les jeunes ou...
Je les ai adorés. Honnêtement, au-delà de mes attentes. Oh. Au-delà de mes attentes. T'sais, Tristan Luneau, il joue en moyenne 26-27 minutes en début de saison. Une des raisons qu'on a cherché Béliveau, c'est de lui en donner moins pour augmenter la qualité de son jeu. Parce que des fois, quand tu joues 26-27, tu viens fatigué mentalement. Tu peux prendre des mauvaises décisions.
C'est là que ça se passe, les erreurs.
Tu perds ta confiance, peut-être un petit peu. T'sais, je regarde un Antonin Véro qui était notre deuxième scoreur cette année. Il a 29 points. Il était un moteur. C'est sûr qu'en série, physiquement, là, quand tu joues contre la première pairing de défenseur. Exact. Puis Warren, ça progression, puis sa voix, son impact physique. Ça, les quatre, là, dans l'ensemble, là, c'est un bilan extrêmement positif, puis ça, c'est encourageant pour la suite. Là.
Quand tu regardes ton équipe, là, ce que vous avez fait cette année, évidemment, tu as déjà commencé ton tableau pour l'année prochaine, puis tu as déjà ton tableau, je pense, pour l'année d'après. Hein? Et c'est comme ça un coach. Hein? Vous autres, vous êtes de même. Vous êtes des bébites bizarres.
Imagine quand tu rajoutes GM à ça. Tu as l'autre année d'après, puis là, tu as des choix.
Tout à fait. Qu'est-ce qui manque aux Olympiques? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Je t'ai entendu, puis écoute, c'est peut-être juste une perception. J'ai vu peut-être 10 minutes d'un de vos matchs contre l'Armada, mais je t'ai entendu le dire, puis ça m'a frappé. On s'est fait brasser. On s'est fait intimider un peu par l'Armada. C'est un élément sur lequel il va falloir que vous vous attardiez ça pour l'an prochain?
Tu sais, j'ai utilisé le mot brasser, intimider, c'est que leur défenseur était rendu à maturité. Tu sais, je regarde un Ortiz qui est un défenseur à caractère offensif, mais il rentre dans un coin, il va jabber avec son hockey. Nos gars peuvent tomber quand t'as 16, 17 ans pis t'es fatigué physiquement, mentalement. Je te dirais, c'est avec le temps, cette expérience-là, cette maturité-là physique, que tu sois un 5 et 8 ou que tu sois un 6 et 2.
Ça va venir.
La manière que tu vas te présenter dans le coin, tu vas être un petit peu plus prête. Tu sais, je regarde notre équipe cette année. L'an prochain, on perd un Roland 6-5, Coxhead 6-3. Tu sais, on va avoir des choix de 19 ans qui sont des gros bonhommes également. C'est que ça va être important que si on est capable de continuer à se grossir. On veut pas être une équipe de matamor. On est la seule équipe avec fierté qui s'est pas battue cette année.
Pas une bataille.
C'est que ça l'a surpris beaucoup de gens.
Attends une minute. Un club de Louis Robitaille, pas une bataille.
Oh, oui, Stéphane Leroux, il me l'a mentionné dans un podcast. Je le savais pas, je m'en doutais, mais c'est pas grave. On est la seule en 31 matchs qui s'est pas battue. C'est que la game est indifférente, mais je peux te dire une chose, c'est que les gens qui jouaient contre nous savaient qu'on était physique, qu'on était hargneux, qu'on était intense, mais il y a cette ligne-là. Donc, on veut continuer à amener des bons joueurs de hockey qui vont jouer avec hargne, avec passion. Puis ça, c'est pas des matamors. Mais en même temps, je pourrais dire que l'ajout de Michael Martel avec nous à Noël a sécurisé beaucoup nos petits bonhommes. Puis Mick s'est pas battu, mais il a été tellement physique pour nous. Il a tellement apporté autre chose que de la bataille. Puis ça sécurise souvent les jeunes. Tu regardes là, après le premier but, lors du match numéro 4, j'ai embarqué Savoie qui a 16 ans, mais avec Martel puis Coxhead. On met la rondelle dans le fond, créé un revirement, marqué le deuxième but à l'intérieur de 6 secondes.
Il était correct quand ces deux-là, il n'y a pas de danger.
Hein? Il était bien protégé.
Oui, ça allait bien de ce côté-là. Mais est-ce que ça venait de l'entraîneur, ça? Est-ce que ça venait du coach? Est-ce que la consigne aux joueurs de ne pas jeter les gants venait de la direction de l'équipe?
Ben nous, moi j'ai toujours dit, un de nos mots dans la chambre, c'est « pack mentality », c'est l'unité de groupe. On veut rester en unité de 5. S'il arrive quelque chose à un de nos petits bonhommes, on veut rester, puis on reste tête, on reste ensemble. Puis on disait toujours qu'après sifflet, on ne voulait pas embarquer là-dedans. T'sais, des fois, il y a de l'émotion. T'sais, les batteurs, ils font partie du hockey. Ben, ils font partie. Il y a un 5 minutes, là, t'es pas suspendu. C'est que, t'sais, si ça allait arriver, ça l'arrivera. Mais ne cherchons pas à se battre juste pour justement là, protéger quelqu'un. Nous, s'il y a quelque chose, j'aime beaucoup mieux marquer en power play. Avoir un sourire, je pense que ça fait beaucoup plus mal. Puis je peux vous dire que moi, dans mon style, disons que j'en ai cherché du monde là, dans ma carrière. J'étais très... j'étais au front là-dedans, puis j'étais agitateur un petit peu.
Pas mal.
Puis Darren Rumble m'a posé la question même avant la série. Il dit, c'est quoi la meilleure manière quand tu pars après quelqu'un, puis là, il veut se battre? C'est l'ignorance. Moi, quand quelqu'un m'ignorait, là... Fallait que je trouve quelque chose. Non, je suis là, là.
Fallait que je dérange.
Fait que, tu sais, c'est de faire comprendre ça à nos joueurs que tough, c'est pas de se battre. Pour moi, être un joueur physique, c'est prendre une mise en échec. Va en avant du but, prends le cross-check. Prends un coup de hockey dans le visage quand ça va couper. On prendra le 4 minutes pour on va marquer exactement ce qu'on a fait lors du match numéro 1. Rainville, il a attaqué Prokopenko sans aucune raison.
Il n'a pas dit un mot.
Puis il a eu joueur du match, puis il a marqué en première période, puis il était physique, puis il a connu son meilleur match de la saison. C'est que tu sais, c'est des petits détails des fois que cette langue de l'autre équipe, on va s'en servir, nous, justement, pour être encore plus agressif puis encore plus émotif à vouloir scorer un but.
Intéressant. On est avec Louis Robitaille, l'entraîneur des Olympiques, directeur général des Olympiques, directeur des opérations hockey. Comment a été comment tu t'es adapté à la région de l'Outaouais? Comment ça s'est passé pour toi?
J'avais hâte.
La famille, tout le monde.
On avait hâte d'arriver. C'est tellement une belle région, c'est tellement une grande région avec Ottawa, Chelsea. T'sais, on avait hâte justement de pouvoir aller marcher, aller prendre manger au restaurant, voir les gens. Moi, j'ai joué ici midget 3, hein, c'est que j'avais encore beaucoup d'amis. Puis à chaque fois qu'on venait jouer contre les Olympiques, je disais tout le temps, Colin, c'est spécial ici. Puis tu sais, j'ai ce sentiment-là. C'est la première fois que j'ai parti de la maison pour m'en venir dans l'Outaouais. Mais je te dirais que depuis le mois d'avril, là, mon bon ami Mathieu Chénier pourrait te conter des histoires. Là, que un voyage, le tire pété en plein COVID au mois d'avril. Tu sais, on en a eu là, des histoires même de famille. On a eu de la misère à trouver une maison en pandémie. Mais là, on est bien installé. Ma plus vieille, elle va à l'école. Ma plus jeune, elle a trouvé une gardienne finalement. C'est que tu sais, on a hâte de trouver un semblant de normalité justement pour pouvoir vraiment l'expérimenter au maximum.
Puis toi, t'as ramené la COVID à la maison?
Puis j'ai ramené la COVID à la maison. Au moins, on est immunisé. On va regarder le positif. Hein. On a passé à travers une petite tempête, puis là, on se dit qu'on est correct. Mais ça n'a pas été facile. Surtout les enfants. Là. Ma plus vieille, ça a pris du temps avant qu'elle soit diagnostiquée. Donc, son 14 jours a commencé à la fin de 10 notes. C'est que ça, c'était tough. Elle était 23 jours à la maison à rien faire. Puis c'est pas juste la famille de Louis Robitaille. Quand je pense là, à tous les gens à travers le Québec qui vivent ces situations-là, là, puis nos familles de pension, ça n'a pas été un bel événement pour nous.
Y a-tu, sans nous donner trop de détails, y a-tu de la discorde? À un moment donné, quand tout le monde est malade puis que ça va mal, comme ce que vous avez vécu, il y en a des fois qui abandonnent, qui lâchent ou qui viennent fous, qui choquent, qui perdent patience. Y a-tu de ces événements-là chez les Olympiques cette année?
Zéro. Puis, en toute honnêteté, en toute transparence, c'est la première année, même Darren, quand il a quitté pour Moncton, il dit, j'ai jamais vu ça, un groupe aussi soudé, aussi uni, engagé, fier, puis qui avait hâte de revenir aussi. Mais même à travers la saison, tu sais, quand tu regardes, tu as deux mois off là, entre la bulle de Québec puis la bulle de Drummondville en revenant au mois de janvier. Jamais on a senti nos gars tannés ou écœurés ou, tu sais, des fois, tu deviens marabout sur la glace. Puis ça, faut donner crédit à l'organisation qui m'a donné. Il m'a donné carte blanche à justement prendre des décisions pour le bien de nos joueurs, leur donner tout ce qu'ils avaient besoin pour se sentir bien puis pour performer. Puis l'autre chose, c'est les pensions. Les pensions, je le mentionne souvent, mais ces gens-là, dans une pandémie mondiale, ont quand même décidé d'ouvrir leurs portes pour traiter nos joueurs comme leurs enfants. Puis les
il y a des pensions qui l'ont eu aussi, là.
Il y en a eu qui l'ont eu. J'ai pas le chiffre exact là, du nombre, mais veux pas, même s'ils l'ont pas, t'as des symptômes, tu dois rester à la maison. C'est que ça, c'est un engagement qu'ils font envers leur famille, puis j'en serai jamais assez reconnaissant envers eux, là.
Louis, bouge pas. On va faire une pause. On revient tout de suite après. On doit prendre une pause publicitaire parce qu'il faut qu'on paye le salaire de Tania.
On peut-tu en prendre deux pauses? Moi,
Restez là. On vous revient dans quelques instants avec le coach des Olympiques, Louis Robitaille.